Am I blessed?
Je suis béni, n'est-ce pas? Elle est merveilleuse. Une amie formidable et je l'aime beaucoup. Et nous vous aimons. Nous vous aimons. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, je vous transmets l'amour et les bénédictions du Collège des Douze Apôtres. Le président Monson me manque. Il était mon modèle, mon tuteur et mon très cher ami. Mais je peux vous assurer que le Seigneur lui-même est à la tête de son Église, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Dans son plan divin, le Seigneur a fait que son Église soit toujours dirigée par des prophètes, voyants et révélateurs. Nous pensons à vous continuellement. Nous prions pour vous. Nous vous aimons et nous vous admirons. L'événement mondial de service et de partage qui a précédé cette réunion et qui va la suivre n'est qu'un exemple de votre bonté. Des dizaines de milliers d'entre vous ont participé de manière remarquable pour aider les personnes dans la détresse, pour édifier les âmes par le chant, et ce cœur est quelque chose de très spécial, n'est-ce pas? C'est magnifique et c'est un exemple que l'Université d'Utah et l'Université Brigham Young peuvent travailler en harmonie. Et vous êtes aussi ici pour répandre la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ par le biais de médias sociaux et d'autres moyens. Merci de montrer une telle disposition à servir Dieu et vos semblables. C'est une très bonne chose d'être avec vous aujourd'hui et de ressentir votre force, votre énergie. Je suis très heureux que nous ayons eu l'occasion d'entendre ma femme Ariette. Elle est vraiment mon rayon de soleil. Toutes les personnes qui la connaissent, l'apprécient. Elle est de ceux qui aident leur entourage à s'améliorer et qui rendent les gens heureux. Elle a assurément eu cette influence sur moi. Nous venons de célébrer notre 55e anniversaire de mariage et lorsque nous regardons nos deux enfants et leurs conjoints, nos 6 petits-enfants avec leur famille et nos 3 arrière-petits-enfants, nous sommes émerveillés de la magnifique aventure qu'a été notre vie. Une pensée intéressante m'est venue en préparant cette réunion. C'est vrai, les années de mes 18 à 30 ans sont à peine visibles dans mon rétroviseur. Mais malgré l'âge que j'ai aujourd'hui, je me sens toujours jeune. Croyez-le. En fait, la plupart d'entre nous qui sommes plus âgés, nous considérons comme des jeunes qui ont tout simplement vécu très longtemps. Les générations précédentes ont avec vous bien plus de points communs que vous ne le pensez. Je pense que les différences entre les enfants de notre Père Céleste, quel que soit leur âge, soient minimes comparé aux similitudes. Par exemple, un grand nombre d'entre vous ont des questions sur Dieu et sur eux-mêmes, de profondes questions fondamentales qui sont semblables à celles que les personnes plus âgées que vous se posent. Dieu existe-t-il vraiment? Se soucie-t-il de nous? Suis-je sur le bon chemin? Pourquoi est-ce que je me sens parfois vide, accablé, ignoré ou seul? Pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu dans ma vie? Pourquoi n'a-t-il pas exaucé une prière? Pourquoi a-t-il permis que cette tristesse cette maladie ou cette tragédie m'arrive. Ce sont des questions auxquelles il peut être difficile de répondre. À cette époque de réponse instantanée, où la connaissance absolue apparemment insaisissable n'est qu'à un clic d'une recherche Google, nous sommes parfois frustrés lorsque la réponse à nos questions les plus personnelles, les plus importantes et les plus urgentes n'arrive pas. Nous élevons notre cœur au ciel et tout ce que nous semblons obtenir est un agaçant curseur d'attente qui ne cesse de tourner. Nous n'aimons pas attendre. Quand nous devons attendre quelques secondes qu'un moteur de recherche réponde, nous commençons à supposer que la connexion est limitée ou rompue. Par frustration, il nous arrive même d'abandonner la recherche. Mais quand nos questions sont d'ordre spirituel et éternel, et qu'elles ont une portée donc éternelle, nous devons être plus patients. Toutes les réponses ne se valent pas. Les réponses qui viennent de la sagesse du monde ou de l'opinion populaire nous parviennent facilement. Mais bien vite, elles ne valent plus grand-chose quand émergent de nouvelles théories ou de nouvelles modes. Les réponses célestes, les réponses éternelles, n'ont pas de prix. Obtenir ces réponses nécessite souvent des sacrifices, des efforts et de la patience. Ces réponses valent la peine qu'on les attende. Aujourd'hui, j'aimerais vous témoigner que notre Père Céleste vous connaît. Il vous entend et ne vous abandonnera jamais. Tandis que vous tournez votre cœur vers lui et vous efforcez de suivre ses voies, il interviendra dans votre vie et dirigera vos pas dans votre voyage à travers cette grande et passionnante aventure de la vie mortelle. L'un des champions de l'innovation de notre époque, Steve Jobs d'Apple, a exprimé cette idée. Vous ne pouvez relier les points en regardant vers l'avant, a-t-il dit. Vous ne pouvez les relier qu'en regardant en arrière. Alors vous devez croire que les points vont d'une manière ou d'une autre se relier dans le futur. Que voulait-il dire par là? Une illustration aidera sûrement. À la fin du 19e siècle, des artistes comme Georges Seurat et Paul Signac ont lancé un nouveau style de peinture qui sera connu sous le nom de néo-impressionnisme. Leur technique consistait à recouvrir la toile de petites touches de couleurs. De près, ces points apparaissent séparés et disposés de façon aléatoire. Mais quand on regarde la peinture entière, on peut voir comment la couleur des points se mélange et comment les couleurs donnent des formes qui révèlent une scène magnifique. Ce qui pouvait sembler arbitraire et même déconcertant commence à avoir du sens. Parfois, notre vie ressemble à du néo-impressionnisme. Les points de couleur qui composent les moments et les événements de nos journées peuvent sembler sans lien au premier abord. Nous avons l'impression qu'ils sont placés n'importe comment. Nous n'imaginons pas du tout qu'ils ont un but. Cependant, si nous prenons du recul et que nous les regardons d'un point de vue éternel, quand nous examinons notre vie dans le cadre de l'Évangile de Jésus-Christ, on commence à voir la manière dont les différents points se relient. On ne voit pas encore l'ensemble de l'image, mais on en voit assez pour croire que c'est un beau et grand dessein. En nous efforçant de faire confiance à Dieu et de suivre Jésus-Christ, un jour, nous verrons l'œuvre finale et nous saurons que la main même de Dieu dirigeait et guidait nos pas. Nous saurons que le maître avait toujours eu un plan pour ces touches de peinture aléatoires. Nous verrons qu'il a fait grandir nos talents, préparé des occasions et qu'il nous a fait découvrir des possibilités beaucoup plus glorieuses que ce que nous aurions imaginé ou accompli seuls. C'est tout à fait ce que j'ai vu dans ma propre vie. Beaucoup d'entre vous savent que lorsque j'étais très jeune, ma famille a été forcée de fuir chez nous à deux reprises. À ces deux occasions, il semblait assez manifeste que les personnes qui nous côtoyaient dans nos nouvelles demeures nous voyaient comme étant inférieurs. Chez les enfants de mon âge, mon accent faisait de moi un étranger, et c'était pour eux une grande source de ridicule et de rire. Mes parents avaient du mal à nourrir notre famille. Ma mère a lancé une entreprise de blanchisserie et je faisais office de livreur à domicile avec ma bicyclette et ma charrette après l'école. Le traumatisme et le stress de nos déménagements ont été à l'origine d'un retard dans mes études. Et j'ai perdu toute une année scolaire. En Allemagne de l'Est, j'avais appris le russe comme deuxième langue. C'était difficile, mais je m'en suis sorti. Puis, en Allemagne de l'Ouest, il a fallu que j'apprenne l'anglais. Cela me semblait impossible. J'étais convaincu que ma bouche n'était simplement pas faite pour la langue anglaise. Pendant mon adolescence, je suis tombé amoureux d'une fille magnifique aux beaux yeux marrons. Malheureusement, Ariette ne montrait pas le moindre intérêt pour moi. Peu importe ce que je tentais, rien ne marchait. Enfin, vous avez entendu sa version de l'histoire. Alors, voilà où j'en étais. Un jeune homme sans grande importance et en difficulté, vivant dans l'Allemagne de l'après-guerre et qui semblait n'avoir aucune chance de succès dans la vie. Mais il y avait quand même deux choses positives. Je savais que ma famille m'aimait. À l'école et à l'église, il y avait des instructeurs qui m'incitaient à toujours me fixer des objectifs élevés. Je me souviens encore de l'enseignement d'un jeune missionnaire américain qui avait enseigné ce principe tiré des Écritures. Il a dit, « Si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous ?» C'est quelque chose qui m'avait frappé avec une grande force. Je me suis dit, « Si c'est vrai, pourquoi devrais-je craindre ?» Alors, je l'ai cru. Et j'ai fait confiance à Dieu. Pendant un temps, j'ai été en apprentissage. L'un de mes professeurs m'a poussé à viser plus haut et à suivre des cours du soir pour étudier l'ingénierie mécanique. Cela a requis beaucoup de travail supplémentaire, mais m'a permis de découvrir ma grande passion pour l'aviation. Cela a été pour moi un choc d'apprendre que pour devenir pilote, je devais connaître l'anglais. Mais je voulais devenir pilote. Et miraculeusement, ma bouche a semblé changer et l'anglais ne m'a plus semblé aussi impossible à apprendre. Avec une nouvelle motivation, un nouvel engagement à travailler dur et avec ma confiance en notre Père Céleste, j'ai suivi de petites étapes qui ont bâti en moi la confiance que je pouvais y arriver. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout a été facile. À 19 ans, je me suis rendu à San Antonio, au Texas, pour commencer ma formation de pilote de l'armée de l'air. Dans l'avion, j'étais assis à côté d'un homme qui parlait avec un fort accent texan. Avec horreur, je me suis rendu compte que l'anglais que j'avais eu tant de mal à apprendre n'était pas celui qu'on parlait au Texas. À l'école de formation des pilotes, ce n'était pas facile non plus. C'était un programme extrêmement compétitif, chacun visant la meilleure place à l'issue de la formation. J'ai su dès le début que j'étais désavantagé, car l'anglais était la langue maternelle de la plupart de mes camarades de classe. Mes instructeurs de vol me mettaient en garde contre un autre désavantage possible, le temps important que je passais à l'église. Les membres locaux m'avaient accueilli dans leur branche et dans leur foyer, et nous avions même bâti une église à Big Spring ensemble. Mes instructeurs de vol se demandaient si de telles activités n'allaient pas réduire mes chances de figurer dans les meilleures places. Je ne le pensais pas. Alors j'ai fait confiance à Dieu et j'ai fait de mon mieux. Finalement, j'ai appris l'anglais, même si j'y travaille encore aujourd'hui. J'ai terminé ma formation de pilote et j'ai fini premier de ma classe. Je suis devenu pilote de chasse et plus tard pilote de ligne. Et la belle fille aux yeux marrons de mes rêves, elle est ici même avec moi. Y a-t-il une leçon à tirer de cela? Je pense qu'il y en a plusieurs. En voici une. Ne vous découragez pas devant les nombreuses grandes difficultés de la vie. Si vous vous engagez à faire les choses faciles, les petites choses que Dieu vous demande de faire, et si vous les faites aussi parfaitement que vous le pouvez, de grandes choses suivront. Parmi ces choses, petites et faciles, que vous pouvez faire parfaitement, il y a la prière quotidienne, l'étude des Écritures, le respect de la parole de sagesse, l'assistance à l'Église, la prière avec une intention réelle et le paiement de la dîme et des offrandes. Faites ces choses même lorsque vous n'avez pas envie de les faire. Ces sacrifices peuvent paraître insignifiants, mais ils sont importants, car que de faveurs viennent du sacrifice. Dans un sens, vos sacrifices petits et simples deviennent les points de votre vie de tous les jours et constituent le chef-d'œuvre qu'est votre vie. Vous ne voyez peut-être pas encore comment ces points se relient entre eux. Ayez simplement assez de foi pour vivre le moment présent. Faites confiance à Dieu et de ces petites choses sortira ce qui est grand. Maintenant, vous vous dites, « Oui, frère Hoogdorf, tout ça, c'est bien pour vous. » Mais vous êtes un apôtre. Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas si important aux yeux de Dieu. Il ne répond pas à mes prières, il ne guide pas ma vie. S'il y a un plan pour moi, j'en ai une vieille version par rapport à vous. C'est un plan de seconde main. Un plan où l'on vous tapote sur l'épaule pour que vous vous contentiez de ce que vous avez. Mes chers amis, souvenez-vous de ce qu'a dit Steve Jobs. Vous ne pouvez pas relier les points en regardant vers l'avant. Vous ne pouvez les relier qu'en regardant en arrière. Lorsque j'avais votre âge, je n'avais pas la moindre idée de ce que j'allais devenir. Je ne voyais aucun point se relier devant moi. Mais je faisais confiance à Dieu. J'écoutais les conseils des membres aimants de ma famille et de mes sages amis. Et j'ai fait des petits pas avec foi, croyant que si je faisais de mon mieux à ce moment donné, Dieu s'occuperait du tableau d'ensemble. Il l'a fait. Il connaissait la fin depuis le commencement et moi, non. Je ne pouvais pas voir l'avenir, mais lui, si. Même pendant ces périodes de difficulté, lorsque je pensais que j'étais seul, abandonné et découragé, il était avec moi. Je le sais maintenant. Dans le livre des Proverbes se trouve cette promesse magnifique. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il n'y a pas de point d'interrogation à la fin de ce verset. Je pense qu'il devrait y avoir un point d'exclamation. Vous devez donc vous poser la question suivante. Puis-je rassembler suffisamment de foi pour croire Dieu? Suis-je disposé à être convaincu qu'il m'aime et veut me guider? En fait, s'il se peut que vous fassiez très bien par vous-même dans beaucoup de domaines, mais je vous en supplie, croyez que votre vie sera infiniment meilleure si vous vous reposez sur Dieu pour être guidé. Il connaît des choses qu'il vous est impossible de savoir et il vous a préparé un avenir que vous ne pouvez même pas imaginer. Le grand apôtre Paul a témoigné, « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. » Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voulez-vous que notre Père Céleste vous guide, vous bénisse et vous soutienne? Alors croyez-le. Aimez-le. Recherchez-le de tout votre cœur. Marchez dans ses voies en respectant les commandements, en honorant vos alliances, en suivant les enseignements des prophètes et en écoutant les murmures du Saint-Esprit. Faites cela et Dieu vous augmentera 1000 fois autant et vous bénira comme il vous l'a promis. Je comprends que pour certains, cela puisse sembler plus facile à dire qu'à faire. Il n'y a pas besoin d'aller très loin dans la culture d'aujourd'hui pour entendre des voix contradictoires qui découragent ou même ridiculisent la croyance en Dieu et en notre religion. De nos jours, des avancées technologique sans précédent dans nos modes de communication amplifie ces voix. C'est votre difficulté, mais c'est aussi votre privilège. Je suis convaincu que vous saurez quoi faire et le ferez à la manière du Sauveur. Cela fait partie de l'œuvre du salut. La façon dont vous accomplirez ces choses influencera votre avenir et le rôle que vous jouez dans l'œuvre de Dieu ici-bas. Cependant, votre expérience dans la condition mortelle n'est pas unique. Votre génération n'est pas la seule à avoir vu sa foi en Dieu mise en doute et raillée. En fait, cela semble faire partie du test de la condition mortelle de tous les enfants de Dieu. Si vous étiez du monde, le Seigneur a dit à ses disciples, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Vous devez également accepter le fait que lorsque vous vous engagez à suivre le Sauveur, les résidents du grand et spacieux édifice manifesteront. Parfois de façon bruyante, leur désapprobation. Ils peuvent essayer de vous intimider et de vous couvrir de honte. Mais souvenez-vous que ce n'est pas à eux que vous rendez des comptes, mais à Dieu. Un jour, vous vous tiendrez devant lui et ferez rapport de votre vie. Il vous demandera si vous êtes parvenu à surmonter les tentations du monde et à suivre le chemin de la justice. Il vous demandera si vous avez suivi le Sauveur, si vous avez aimé votre prochain et si vous avez essayé sincèrement de suivre le chemin du disciple. Mes chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas jouer sur les deux tableaux. Vous ne pouvez pas recevoir les bénédictions extraordinaires d'un disciple tout en restant inscrit sur les registres de la première paroisse de Babylone. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, il est maintenant le temps de vous engager vis-à-vis du Christ et de suivre son chemin. Un jour, tous les enfants de Dieu sauront ce qui est juste, même ceux qui aujourd'hui se moquent de la vérité. Ils fléchiront les genoux et confesseront que Jésus est le Christ, le Rédempteur, le Saint d'Israël. Ils sauront qu'il est mort pour eux. Ce jour-là, vous saurez que sa voix est la seule qui ait jamais eu d'importance. À ce moment-là, vous saurez avec certitude à quel point vous êtes béni parce que vous avez gardé la foi, respecté les commandements de Dieu, servi vos semblables et édifié le royaume de Dieu sur la terre. Mes chers amis, croyez et Dieu sera avec vous. Tournez votre cœur vers lui et il vous guidera dans votre voyage à travers la grande aventure de la vie mortelle. Maintenant, j'aimerais clarifier un point concernant le fait de laisser Dieu guider notre vie. Il se peut que vous n'appréciez pas ce que je vais vous dire. Lorsque vous demandez à Dieu ce que vous devez faire concernant certaines décisions, parfois importantes, des décisions importantes de votre vie, il se peut que la réponse reste vague. Le fait est que parfois la décision que vous prenez importe peu au Seigneur. Du moment que vous restez fidèle aux alliances fondamentales et aux principes de l'Évangile. À vrai dire, les choix que vous faites ne sont peut-être pas aussi importants que ce que vous faites après avoir pris cette décision. Par exemple, un jeune couple peut décider de se marier même si certains membres de leur famille considèrent qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Cependant, je suis plein d'espoir pour un tel couple qui, après avoir pris leur décision, reste fidèle l'un envers l'autre et envers le Seigneur de tout leur cœur et de tout leur esprit, en se traitant avec amour et gentillesse et en se préoccupant des besoins émotionnels, spirituels et temporels de l'autre. En faisant ces petites choses constamment, ils arriveront à la parfaite adéquation. À l'inverse, un couple qui pense avoir choisi le partenaire parfait se dit que le plus dur est fait. S'ils arrêtent de se faire la cour, de communiquer en tête à tête et retournent à une vie égoïste et égocentrique, ce couple est sur un chemin qui mène au chagrin et au remords. Il en est de même pour les choix de carrière. J'ai beaucoup d'espoir pour ceux qui choisissent un métier moins prestigieux mais qui font tout leur possible pour le rendre intéressant et stimulant. J'en ai moins pour ceux qui choisissent un métier au titre ronflant et qui, le long du chemin, perdent ce feu intérieur nécessaire au succès. En fait, l'attribut majeur que devra développer votre génération est celui de l'adaptation au changement du milieu du travail. Mais vous y arriverez. Vous êtes bon. Vous êtes béni. Donc, comment le Seigneur souhaite-t-il que vous abordiez ces décisions importantes? Ces instructions à Oliver Cowdery et Joseph m'ont été d'un grand secours. Le Seigneur leur a dit, « Tu dois l'étudier dans ton esprit. Alors, tu dois me demander si c'est juste. » Notre Père Céleste nous a donné un cerveau et un cœur. Si vous faites confiance au Seigneur, il vous aidera à vous servir correctement des deux pour prendre vos décisions. Dans de nombreux cas, vous devrez choisir entre plusieurs bonnes options. Lorsque cela arriva à Joseph et à ses compagnons, ils cherchèrent à être guidés par le Seigneur et ce dernier utilisa une phrase assez intéressante. Il dit « Peu m'importe ». Mais le Seigneur ajouta immédiatement « Seulement soyez fidèles ». Votre responsabilité est de prendre les meilleures décisions basées sur les valeurs et les principes de l'Évangile en fonction des informations en votre possession. Ensuite, vous devez être fidèle et vous efforcer de toutes vos forces pour réussir ce que vous avez entrepris. Faites cela et les points se relieront. Cela peut paraître déroutant d'entendre que Dieu ne vous donnera pas forcément un itinéraire détaillé de votre périple dans cette condition mortelle. Mais voulez-vous vraiment être guidé dans tous les aspects de votre vie? Voulez-vous vraiment que quelqu'un vous donne les codes de triche avant d'avoir la possibilité de résoudre les choses par vous-même? Quel genre d'aventure cela serait-il? Mes chers amis, l'aventure de la vie mortelle ne se vit qu'une fois. Une démonstration sur mesure, pas à pas, comprenant des révélations sur l'intrigue et les réponses aux grandes questions de la vie, n'enlèverait-elle pas le magnifique sentiment d'accomplissement et le développement de votre assurance devant Dieu et de votre confiance personnelle? Comme Dieu vous a donné le libre arbitre, vous pouvez choisir d'aller dans de nombreuses directions et continuer de mener une vie épanouie. La vie est une histoire dont vous choisissez le scénario et la fin. Vous avez des commandements, des alliances, des conseils prophétiques et vous avez le don du Saint-Esprit. C'est amplement suffisant pour vous mener de la joie terrestre au bonheur éternel. Ne vous découragez pas s'il vous arrive de prendre des décisions qui sont loin d'être parfaites, même des erreurs. C'est comme cela qu'on apprend. Cela fait partie de l'aventure de la condition mortelle. Aucune aventure se déroule sans encombre du début à la fin. Mais si vous êtes fidèle, vous avez l'assurance d'un dénouement heureux. Rappelez-vous la leçon de Joseph d'Égypte. En de nombreux points, sa vie semblait être un désastre. Ses frères l'ont vendu. Il fut jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. En dépit des terribles circonstances qui lui furent imposées, il était resté fidèle. Il faisait confiance à Dieu. Il a tiré parti de sa situation. Année après année, même lorsque tout laissait croire qu'il avait été ignoré et abandonné, il a gardé la foi. Joseph a toujours tourné son cœur vers Dieu. Et Dieu lui montra qu'il était capable de transformer les points négatifs en points positifs. Aujourd'hui, près de 4000 ans plus tard, nous trouvons toujours de l'inspiration dans l'histoire de Joseph. Votre aventure ne sera pas aussi spectaculaire, et je l'espère. Mais il y aura des hauts et des bas. Alors, rappelez-vous l'exemple de Joseph et restez fidèles. croyez. Soyez honnête. Ne devenez pas amer. Ne soyez pas tyrannique. Aimez Dieu. Aimez votre prochain. Peu importe d'où ils viennent ou de leur situation économique. Faites confiance au Seigneur, même lorsque les choses semblent sombres. Il faudra du temps pour vous en rendre compte, mais vous regarderez en arrière et vous saurez que le Seigneur vous guidait sur le chemin. Les points ont été liés et reliés. À présent, voilà ce que j'aimerais que vous reteniez de ce moment passé ensemble ce soir. Premièrement, sachez que les réponses que Dieu vous donne peuvent prendre un peu de temps et venir d'une façon inattendue. Mais toutes les réponses de Dieu ont une valeur éternelle. Elles valent la peine qu'on les attende. Deuxièmement, faites preuve d'un peu de foi. Tournez votre cœur vers Dieu. Sachez que vous êtes important pour Dieu. Et soyez sûr qu'il peut faire de vous une personne bien meilleure que ce que vous pourriez devenir seul. Apprenez du Seigneur. Aimez-le. Croyez en lui. Parlez avec lui. Écoutez sa voix. Troisièmement, faites de votre mieux pour avancer sur le chemin du disciple. Ne vous découragez pas. Faites simplement et le plus parfaitement possible, les petites choses et les grandes choses se mettront en place d'elles-mêmes. Quatrièmement, ne laissez pas les voix décourageantes vous écarter de votre périple de foi. Souvenez-vous, vous ne répondez pas aux critiques. Vous répondez à notre Père Céleste. Seul son point de vue compte. Cinquièmement, prenez les meilleures décisions possibles. Discutez des idées qui viendront dans votre cœur et dans votre esprit. Consacrez tous vos efforts pour les réaliser. Ayez la foi et Dieu consacrera vos efforts honnêtes pour votre bien éternel. Faites cela et à la fin, tout ira bien. Je vous laisse ma bénédiction aujourd'hui et pour cette nouvelle année, afin que, tandis que vous vous efforcez de connaître votre Dieu, votre foi grandisse. En cherchant à suivre votre Sauveur, votre assurance deviendra grande. Lorsque vous marchez en sainteté et ouvrez votre cœur à la lumière du Christ, votre amour pour Dieu s'affinera et votre capacité à aimer votre prochain s'améliorera. Et tout cela vous donnera de la joie et vous apportera la paix. Un jour, vous recevrez une gloire éternelle. En ce jour, quand vous repenserez à cette précieuse et excitante aventure dans la condition mortelle, vous comprendrez. Vous verrez que les points se relient et forment un magnifique tableau, bien plus beau que ce que vous auriez pu imaginer. Avec une infinie gratitude, vous y verrez que Dieu, lui-même, dans son amour infini, sa grâce et sa compassion étaient toujours là pour veiller sur vous, vous bénir et guider vos pas tandis que vous vous approchiez de lui. J'en témoigne et je vous donne ma bénédiction en tant qu'un apôtre du Seigneur et le dis au nom sacré de notre Maître, le nom de notre Rédempteur et de notre Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Amen.